Merci à vous de nous écouter. France Inter, il est 8h. Le journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, ils aident les enfants handicapés à l'école, mais eux-mêmes ne sont pas franchement aidés. Les AESH ne sont pas cher payés quand ils le sont, ce qui n'est pas toujours le cas depuis la rentrée. Quand l'État gagne au loto sans cocher aucun numéro, mise en vente des actions de la Française des Jeux. Cette semaine, 1 milliard d'euros de gains attendus. Les investisseurs sont dans les starting blocks. À la une également, la semaine où tout a basculé. C'était il y a 30 ans, la chute du mur de Berlin au menu du grand entretien ce lundi, Nicolas.
Oui, on l'évoquera avec l'ancien eurodéputé écologiste Daniel Cohn-Bendit. Il est donc au micro d'Inter dans une bonne vingtaine de minutes. Appelez-nous, intervenez au 01 45 24 7000.
Et dans ce journal, nous serons au Texas avec des électeurs de Trump plus fervente humeur, à Marseille qui se gratte à cause des punaises de lit, en Normandie où les chasseurs traînent Luc Besson au tribunal aujourd'hui et dans la tête des jurés du Goncourt qui remettront leur prix tout à l'heure.
France Inter.
On appelle ça l'école inclusive ou comment accueillir les élèves en situation de handicap. Pas tout à fait comme les autres. Évidemment, ces enfants-là ont besoin d'une aide qui leur est fournie par des accompagnants à l'école, des AESH dans le jargon. 72 000 recrutés cette année, c'est 4 500 de plus que l'an dernier pour accompagner 25 000 élèves handicapés supplémentaires. Aujourd'hui, un comité de suivi va présenter un premier bilan de la rentrée après un changement de statut de ces aidants. Leur conditions de travail aussi a changé, Sonia Princey, et de gros bugs ont provoqué des retards dans le versement des salaires.
Depuis la rentrée, les AESH n'ont pas toutes été rémunérées en totalité. Certaines ont simplement reçu des acomptes. C'est le cas de Lisiane, qui accompagne des élèves en situation de handicap depuis 10 ans à Dieppe. Elle n'a jamais vécu une situation financière aussi catastrophique.
J'ai eu droit à une aide alimentaire de 60 euros par la ville. D'autres collègues ont eu droit à des aides pour régler une facture. C'est le stress au quotidien. On a les yeux sur le compte, on compte nos sous, dans le peu de sous qui nous reste dans le porte-monnaie. Enfin, je veux dire, c'est juste incroyable quand on explique aux gens que notre employeur est l'État. C'est tellement hallucinant. Pour nous, on a subi ça comme une humiliation salariale.
Ces contractuels dénoncent une dégradation très nette depuis septembre. Anne, du collectif AESH en action, a reçu de nombreux messages de détresse de ses collègues.
On est des larbins. Il n'y a pas d'autre mot. On est des larbins. Notre situation, elle est le reflet de la considération qu'on porte aux élèves en situation de handicap. Pourquoi, à l'école, les élèves n'ont pas droit à être accompagnés par des gens qui sont payés correctement, qui peuvent vivre dignement et élever leurs enfants dignement? C'est une aberration totale.
Autre aberration, selon elle, les AESH prennent en charge davantage d'élèves. L'accompagnement est mutualisé, ce qui signifie en réalité saupoudré. Les élèves ne sont aidés que quelques heures par semaine.
Et 365 000 élèves en situation de handicap sont scolarisés cette année en France. Si vous en achetez 10, la 11e est offerte. C'est l'État qui vend ses actions de la Française des Jeux. On ne sait pas encore à quel prix, mais ça commence jeudi. 50% du capital mis en vente jusqu'au 20 novembre. Cette privatisation, Bercy la veut populaire et lucrative, un pari qui ne devrait pas être trop difficile à remporter, Fabien Cazot.
Avant même la mise en vente des actions Françaises des Jeux, les investisseurs manifestent déjà leur intérêt pour une entreprise dont ils louent la stabilité. Véritable machine à cash avec ses 25 millions de joueurs réguliers ou occasionnels et leurs 16 milliards de mises en 2018, la FDJ dispose de sérieux atouts pour séduire les investisseurs, comme François Chollet, directeur général de la société de gestion Montségur Finance.
La qualité de l'entreprise est certaine, c'est-à-dire qu'on a un titre qui propose une rémunération pérenne de l'actionnaire au travers des dividendes et ça semble être un cas d'investissement très positif et très favorable pour l'investisseur, surtout dans une zone économique où les taux d'intérêt sont proches de zéro.
Si l'opération rencontre un large succès sur les marchés financiers, elle pourrait rapporter à l'État un bon milliard d'euros selon la direction de l'entreprise. Une manne qui sera reversée à un fonds pour financer l'innovation dans l'industrie. La Française des Jeux devra en outre s'acquitter d'une redevance annuelle de 380 millions d'euros en contrepartie de l'exclusivité qu'elle conservera sur le marché des jeux d'argent, plus 22% des mises, sorte de TVA du jeu, qu'elle continuera de reverser à l'État après la privatisation. cotisation.
La première cotation à la bourse aura lieu le 21 novembre. 3 jours en Chine pour Emmanuel Macron. Il est attendu à Shanghai aujourd'hui à la foire des importations. Ça tombe bien, la France voudrait vendre plus en Chine. Une 40aine de contrats seront signés pendant la visite dont on reparle avec Pierre Aski juste après ce journal. La Chine qui ne veut plus être la poubelle du monde. Premier marché des déchets recyclables jusqu'à ce qu'elle ferme sa filière au plastique, puis au carton, ce qui pose un sérieux problème à l'Europe qui croule sous les cartons usagés. Les stocks débordent dans les centres de tri français, Sandy Dauphin.
En France, près de 80% du carton usagé est collecté, mais une partie n'a pas de solution de recyclage. Il y a un manque de papeterie, explique Pascal Geneviève, président de la branche carton de la Fédération des recycleurs Fédérec.
Aujourd'hui, nous avons des difficultés à écouler la totalité des papiers cartons qui sont récupérés en France. On collecte environ 7 millions de tonnes et l'industrie papetière en France n'en consomme que 5,4. Nous avons 1,6 million de tonnes d'excédents. Ça veut dire qu'un papier sur 5 doit sortir de France pour pouvoir être recyclé.
Mais cette année, la Chine a fermé ses frontières aux déchets carton de l'Europe. Dans les centres de tri, les stocks débordent. Une partie est envoyée par bateau en Asie du Sud-Est, mais ce n'est pas une solution de repli durable, estime Yann Lemou, représentant de la Fédération du papier carton, Copacel.
On avait l'habitude d'envoyer des choses en Asie. Nos déchets, pour que le carton soit reproduit en Asie, ce serait bien d'avoir des politiques qui incitent à la création d'usines plutôt en France. Ces dernières années, des usines de production de carton, quand elles se sont installées, elles se sont plutôt installées en Espagne, en Allemagne, mais pas en France. Et je pense que ça serait quelque chose, évidemment, bénéfique pour tout le monde en termes d'emploi et pour l'environnement, parce qu'on maîtriserait mieux nos impacts environnementaux.
L'idée de transformer le carton en France pour vendre la pâte recyclée à la Chine, qui a toujours d'énormes besoins pour fabriquer des emballages carton pour vendre ses produits de consommation.
Alors, on ne sait pas si Emmanuel Macron parlera carton avec le président chinois. Par contre, il a prévenu qu'il aborderait les sujets qui fâchent avec franchise et respect, comme la situation à Hong Kong, où la journée d'hier a été marquée par une attaque au couteau contre des militants pro-démocratie qui continuent à manifester. 5 blessés, dont l'un des porte-drapeaux du mouvement qui a eu l'oreille tranchée. L'assaillant criait des slogans chinois. Il a été lynché par la foule.
Il est 8h08, Florence, aux États-Unis. Le compte à rebours est lancé.
Dans un an, c'est l'élection présidentielle. Donald Trump face à un ou une démocrate. Trump jure qu'il sera réélu malgré la procédure de destitution lancée contre lui. Ses plus fervents électeurs lui donnent d'ailleurs raison, comme dans cette ville du Texas dans laquelle s'est rendu Gregory Phillips, Miami, Texas, en l'occurrence, la ville qui avait voté le plus largement pour lui en 2016, 96%. Et là-bas, tout le monde ou presque veut lui redonner sa voix.
Le panneau vert à l'entrée de la ville indique que Miami compte 597 habitants. Mais dans les prairies autour, sans doute bien plus de têtes de bétail. Nous sommes tout au nord du Texas, pas très loin de l'Oklahoma. Et voici Mitchell Locke, 37 ans, rancher de père en fils depuis 5 générations. Et qui dresse un bilan positif des 3 premières années de Trump à la Maison-Blanche.
J'aime sa politique étrangère. Ramener les troupes à la maison, s'opposer à la Chine sur le plan commercial. Je pense aussi que pendant trop longtemps, l'Amérique du milieu a été sacrifiée. Et lui a dit, on arrête avec ça.
À quelques kilomètres de là, on a rendez-vous downtown avec un couple de retraités, Steven et Martha, qui dans un éclat de rire racontent qu'ici tout le monde est républicain, même leur chien, Buddy, qui hurle à la mort quand on prononce devant lui le prénom d'Hillary Clinton, l'adversaire de 2016. Quant au maître du chien, il est persuadé que Trump sera réélu malgré cette procédure d'impeachment.
Ils n'ont aucun élément pour le destituer. Ils perdent leur temps et l'argent du contribuable à mener ces enquêtes. Au final, ça va le rendre plus fort, j'en suis certain.
À Miami, Texas, flottent des drapeaux Trump 2020 à l'entrée de quasiment chaque maison. Miami, Texas, Gregory Phillips, France Inter.
Et à un an de l'élection, Donald Trump a déjà récolté 125 millions d'euros pour sa campagne, loin devant ses concurrents potentiels démocrates, les gros sous de la campagne américaine. C'est à lire sur franceinter.fr. En France, 35 000 foyers étaient encore privés d'électricité ce matin dans le sud-ouest. La région a pris la tempête Amélie de plein fouet. Hier, elle a fait de nombreux dégâts, de gros retards dans les trains. Dans le sud-est, ce sont les pluies qui ont été violentes. On recherche toujours une femme disparu après un glissement de terrain juste au-dessus de sa maison à Nice. Train contre voiture dans l'Ain. Hier, un homme et une femme sont morts après avoir été percutés par le Belfort Lyon en fin de journée. 3 blessés légers dans le train qui a pu repartir après 3 heures d'immobilisation. Le conducteur choqué a dû être remplacé après avoir géré la situation avec le contrôleur qui se trouvait à bord avec lui. Elles sont minuscules, elles squattent et elles ne se lassent jamais de sucer notre sang. Les punaises de lit, fléau grandissant dans les grandes villes. 400 000 sites seraient infestés selon le droit au logement. L'association à Marseille, c'est une vraie plaie qui sévit dans les appartements, dans une douzaine d'écoles et même à la bibliothèque municipale. Un problème de santé publique qui n'est pas reconnu comme tel selon les associations et les partis qui se réuniront ce matin devant l'agence régionale de santé. Katia Yacoubi y sera, militante de la France Insoumise et membre du collectif La Cabucelle à Marseille.
Je suis travailleuse sociale. Il n'y a pas un jour où on ne parle pas des punaises de lit. J'ai compris que la question ne concernait pas que les quartiers dits populaires. 12 écoles concernées à Marseille, la caserne de pompiers, les hôpitaux. On a compris très vite l'incurie des pouvoirs publics. Il n'y a ni cartographie, ni service dédié à la question des punaises de lit, ni prévention, ni information. On n'a rien du tout. Et on devait tout faire nous-mêmes. On a loué un appareil à vapeur pour aller chez les personnes désinsectiser leur appartement. C'est pas à nous de le faire. Vous savez, la désinsectisation coûte entre 400 et 1000 euros. Parfois, il faut passer 2 à 3 fois pour se débarrasser vraiment des punaises de lit. Donc vous imaginez, on peut arriver facilement à 2000 euros, voire plus. Qui peut se payer ça aujourd'hui ?
Et voilà, Katia Yacoubi de Marseille avec Sébastien Sabiron. Après les punaises de la terreur, Luc Besson contre les chasseurs. Ça n'est pas un film, mais un procès qui se tient ce matin devant le tribunal d'instance d'Argentan dans l'Orne. Les chasseurs normands lui réclament 120 000 euros parce que Luc Besson ne veut pas qu'on chasse sur son domaine situé en pleine forêt. Résultat, Corinne Audouin, les chasseurs affirment que les cerfs prolifèrent et qu'ils détruisent les cultures alentours.
Depuis 15 ans, Luc Besson possède un domaine à la Trinité des Laitiers dans l'Orne, dont 84 hectares de bois. Comme c'est son droit, il refuse que l'on chasse sur ses terres. Résultat, selon les chasseurs qui l'assignent, les cerfs prolifèrent et les cultures alentours sont régulièrement piétinées. Or, le Code de l'environnement prévoit que ce sont les chasseurs qui sont responsables des dégâts causés par le grand gibier. La fédération a donc versé plus de 100 000 euros aux agriculteurs qu'elle réclame aujourd'hui aux cinéastes. Mais Luc Besson conteste toute responsabilité. Son avocat, Jean-Marc Descoubès.
Monsieur Besson est attaché au caractère sacré de la vie sauvage. Premier point, nous disons que le refus de tuer un animal n'est pas fautif. L'abstention de chasser n'est pas une faute. Le deuxième point, c'est que l'espace vital d'un cerf, c'est environ 2000 hectares. Et la forêt de Luc Besson en fait 80. Alors, il peut y avoir du grand gibier qui passe chez Luc Besson. Mais c'est en aucun cas une réserve, un refuge pérenne pour du grand gibier, c'est trop petit.
La fédération réplique que les cerfs sont plus ou moins sédentaires selon les périodes et que le bois de Luc Besson abrite par moments jusqu'à 100 cervidés. En tant que détenteur d'un droit de chasse, il a des obligations, rappelle l'avocat des chasseurs, qui pointe un Luc Besson complètement déconnecté des réalités de la nature.
Voilà, audience ce matin au tribunal d'Argentan dans l'Orne. Elle avait 103 ans, résistante et déportée dans le camp de Ravensbrück. Pendant la guerre, Yvette Lindy est morte hier après avoir inlassablement raconté son histoire aux jeunes générations, celle d'une institutrice et secrétaire de mairie dans un village de la Marne, entrée presque naturellement dans la résistance, comme elle l'expliquait en 2016 lors de son 100e anniversaire.
Il fallait faire quelque chose bêtement, crever un vélo d'un Allemand. Ça n'a pas arrêté la guerre pour ça. Mais ça l'énervait, c'était le principal. Il demandait où était la poste, on les envoyait au cimetière. Il y a quelque chose qui s'est présenté, c'est que des prisonniers se sont évadés. Est-ce que par hasard, toi qui es à la mairie, tu ne pourrais pas lui faire une carte d'identité ? Eh bien sûr. Et c'est comme ça qu'on a commencé la résistance. Et petit à petit, quand on avait besoin d'un abri ou d'une carte d'identité, eh bien, c'est Yvette qui faisait office de service. Parce que c'était dangereux, c'était stimulant. Parce que ça gênait l'occupant, c'est encore plus stimulant.
Voilà Yvette Lundy, au micro d'Aurélie Jacquin de France Bleu Champagne. Elle avait été arrêtée par la Gestapo en juin 44, élevée au grade de grand officier dans l'ordre de la Légion d'honneur en 2017. Amélie Nothomb, Jean-Paul Dubois, Olivier Rollin, Jean-Luc Coatalem, qui sera le prix Goncourt 2019? On le saura à la mi-journée, plus que quelques heures de suspense, pendant lesquelles on peut tenter de se mettre un petit peu à la place des jurés, Ilana Morioux.
C'est un petit jeu qui rend paranoïaques les journalistes littéraires. Quand un jury Goncourt vous glisse à l'oreille de préparer une fiche sur tel écrivain finaliste, que faut-il en penser? Qu'il vous indique le résultat du vote? Qu'il suggère une préférence personnelle? Ou, hypothèse plus tordue, qu'il cherche à vous égarer? Tahar Ben Jelloun, lui, tient à rester neutre.
Quand on arrive pour nous réunir pour le prix Goncourt, je vous assure qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Il peut y avoir toujours une surprise, on ne sait pas.
Pierre Assouline s'en tient à un principe et un seul.
Choisir un texte, et non pas un écrivain ou une œuvre, mais un texte, et le choisir pour des raisons purement littéraires. Je terminerai juste en rappelant un mot qui est, je crois, de Robert Pinget. Il faut savoir séparer les livres du bruit qu'ils font.
Séparer les livres du bruit qu'ils font, on se demande lequel des finalistes est visé. On n'en saura pas plus. Faut-il s'attendre à des empoignades? Le président de l'Académie Goncourt, Bernard Pivot.
Dans l'histoire du Goncourt, je crois qu'il n'y a qu'un seul roman qui a fait l'unanimité. C'est Le Roi des Aulnes de Michel Tournier, qui a obtenu le prix Goncourt 10 voix sur 10. C'est le seul exemple que je connaisse.
C'était en 1970, il y a presque 50 ans.
Voilà, écoutez bien le trésor de Bruno Duvic, parce qu'en général, on le sait juste à ce moment-là.
Merci Florence Paracuelos.